Elle dit, il y a plus de profit à butiner un verset que de lire des chapitres entiers sans mettre votre attention, votre cœur. Butiner. Elle lit les choses aussi, cette chose extraordinaire. Oh, elle parle au prêtre et au pasteur de son temps. Elle dit, oh, s'il vous plaît, dites à votre peuple que Christ habite en eux. Comme ça, ils ne le chercheront pas au dehors, ils le chercheront en eux. Et quand ils seront au champ, au labour, ou quel que soit quel autre endroit, Christ sera toujours en eux, dans la communion. Et il dit, l'âme a une facilité étonnante à s'attacher à Dieu lorsqu'il se rencontre dans le cœur. Et donc, c'est un tout petit livre, donc au Mercure de France, vous pouvez procurer sur tous les sites en ligne. Je vous le dis, 3,52 €, ça vaut le coup d'en acheter au moins deux et puis redonner ce livre à la France. Retour en soi, c'est vraiment une action du Saint-Esprit. Il y a un constat réaliste, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire des expériences surnaturelles. Je suis désolé, il est là pour nous apprendre à vivre dans le réel, avec toute la puissance du surnaturel, précisément. Quelqu'un a dit, et j'apprécie ça, nous ne sommes pas des êtres de chair qui faisons des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de l'incarnation. Et précisément, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous ramène dans l'incarnation au travers d'un constat réaliste. Ensuite, il y a ce projet inspiré qui ne vient que du Saint-Esprit en troisième. Je me lèverai, vous vous rendez compte, cette parole spirituelle, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il y a un moment donné, il doit y avoir une levée, j'irai vers mon Père. Tout ça, ça vient d'une conséquence des deux premiers. Et puis ensuite, il y a cette confession, j'ai péché contre le ciel, contre la terre. Le fait que la notion du Père, c'est quelque chose qui affecte autant le ciel que la terre. Et puis malheureusement, en plein milieu de ce processus spirituel, la chair va tenter une insurrection, comme tout le temps. Quand la chair perd, surtout quand elle perd en présence de l'Esprit-Saint, elle va tenter une insurrection. Ça, vous pouvez être sûr, toujours. Parce que la chair, c'est ce principe, ce n'est pas le corps, c'est ce principe intérieur qui veut vivre indépendamment de Dieu, qui veut proposer à Dieu d'autres solutions que les solutions divines. Je vous ai parlé du mépris de soi comme étant un moyen de sanctification possible, mais en fait impossible. Et ça, c'est vraiment une proposition que fait la chair pour se sanctifier. Or, il n'y a de sanctification que dans la foi en la grâce toute suffisante de Dieu. Et donc la chair va tenter une insurrection. Et pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le cadet est orgueilleux et qu'en fait il essaye de monnayer son retour. Il essaye de trouver le moyen de se rendre acceptable. En fait, tous ses efforts mènent vers une seule chose, c'est qu'il essaye de sauver sa face. Et le problème, c'est que chaque fois que nous essayons de sauver notre face en face de Dieu, nous perdons la sienne à lui. Si vous voulez trouver la face du Père, il va falloir accepter de perdre votre face. Vous trouverez et celle du Père, et vous trouverez votre vraie identité. Mais si vous voulez sauver votre face, vous allez sauver la face d'un mercenaire, pas celle d'un fils. Or, Dieu cherche d'abord des fils pour ensuite en faire des ouvriers. Le chemin des ouvriers, c'est d'abord devenir des fils. On ne devient pas ouvrier, on ne devient pas fils par le chemin de l'ouvrier. On devient fils en acceptant premièrement cette donne de Dieu scandaleuse, gracieuse, à 100%. C'est que je t'appelle fils, tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Et donc le cadet essaye de monnayer son retour, peut-être il se dit, mais mon aîné va être là, je ne peux pas quand même rentrer comme ça, ça serait trop facile. Ça serait trop facile, non, la grâce ce n'est pas si facile que ça. La grâce, quelque chose de profondément qui comble, mais ce n'est pas toujours facile, ce qui rend, c'est nous qui la rendons difficile cette grâce finalement, c'est nous qui la compliquons. Parce que quelque part, c'est pas facile pour ma chair, c'est pas facile pour mon orgueil, c'est pas facile parce que je veux mériter ma place, je veux mériter ma position dans la maison du Père. Et puis je veux surtout pouvoir regarder mon frère en face. Mais c'est un aveuglement, ce regard en face, il est basé sur un mérite quelconque, sur essayer de rembourser une dette qu'il ne pourra pas rembourser. Et puis, pourquoi c'est la chair ? Parce que tout simplement, quand il dit « traite-moi comme l'un de tes mercenaires », est-ce que vous pensez que Dieu, le Père, puissent être glorifiés par le fait que quelqu'un se dise « Je suis ton mercenaire ». Est-ce que Dieu a donné son Fils pour récolter des mercenaires sur la terre, ou est-ce que Dieu a donné son Fils afin de récolter une armée de fils et de filles? Autrement dit, en quoi cette déclaration pouvait-elle faire plaisir au Père? Et imaginez qu'un jour, un de vos enfants vienne vous voir et vous dise, tu sais, traite-moi plus comme un fils, mais traite-moi comme un mercenaire, comme un ouvrier. Waouh! Vous imaginez la blessure que ça va vous infliger. C'est le deuxième meurtre symbolique qu'il y a dans cette parabole. En plein milieu d'une manifestation spirituelle de grâce où nul ne peut venir au Père à moins que l'Esprit ne l'attire, en plein milieu de cela, eh bien la chair va tenter une dernière tentative, une dernière pour remettre ce peu de distance qui est le fond de commerce de toute religion de la terre. La distance, c'est le fond de commerce de toutes les religions de la terre. Et dans mon cœur, excusez-moi, religion n'est pas un terme positif. Luc nous l'a donné de manière positive, mais ce matin, je vais l'utiliser de manière absolument négative. Puisque je vais l'opposer, peut-être à tort, mais en tout cas, dans le fait que le christianisme n'est pas une religion, c'est une communion. S'il faut relier quelque chose, c'est qu'il y a une séparation, il y a une distance. Mais où est la distance quand Christ s'incarne en toi? Elle est où? Elle est rompue. Or, Christ est précisément venu rompre toute distance, et on va le voir dans quelques instants. Donc, pourquoi dire mercenaire alors que l'Esprit, juste avant, dit « Je me lèverai, j'irai vers mon... » Est-ce que le Saint-Esprit a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon patron » Vous voyez, le Saint-Esprit n'est pas schizophrène. Si quelqu'un parle autrement... Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle autrement. C'est donc bien la chair qui, sous une apparence de fausse humilité, va essayer de se faire accepter, se présenter religieuse, va essayer de se faire passer pour le Saint-Esprit en disant « traite-moi ». Et j'ai l'impression même, vous savez, c'est que le Fils est dans les bras du Père et son indignité, à ce moment-là, religieuse, lui empêche d'embrasser le Père. Ses bras sont restés le long du corps. Et puis il a eu cette idée absolument géniale. Ah ouais, formidable. Traite-moi plus comme un fils, traite-moi comme un mercenaire. Bonne idée, n'est-ce pas? Et puis je pense que dans cette démonstration, ce qui a dû se passer, dans cette démonstration de l'amour du Père sans parole, et on va voir qui est ce Père au travers de cette démonstration, eh bien, et à un moment donné, le cadet, il craque. La présence du Père est tellement forte sur lui qu'il craque. Et finalement, je crois qu'à un moment donné, il va pleurer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais j'imagine ça, c'est que finalement, il va dire, « Ridicule, idiot que tu es. Arrête avec ton délire. Tant pis pour ton orgueil. Ravale-le un petit peu ton orgueil. Accepte inconditionnellement ton retour. Accepte d'être fils à nouveau. » Et à ce moment-là, il embrasse l'amour. Vous voyez, ce geste-là, c'est là où il y a la conversion à l'amour du Père. Ce geste-là, c'est ce qui manque dans beaucoup de nos vies, malheureusement. Ce geste-là, Dieu attend ce retour. Dieu attend qu'une fois que nous soyons embrassés, comme l'a dit Paul, je cours afin de saisir le Christ comme moi-même, j'ai été saisi. Faut courir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une attitude. C'est pas une attitude de... gymnastique, c'est qu'il y a quand les bras du Père arrivent, il faut courir et dire je ne te lâcherai pas. Oui, encore une fois, la responsabilité, elle est nôtre. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu ici pour vous prouver l'amour de Dieu, ça serait absolument présomptueux de ma part, parce que la preuve est faite. Moi, je vous demande, prenez votre responsabilité. Et embrasser la preuve. Embrassez-la. Voilà donc les calculs du cadet pour essayer de sauver sa face, de ne pas perdre la face. Et nous allons passer maintenant à la prochaine étape. Alors oui, ça c'est Galate. Et voici, résumé, vas-y, tu lances les quatre ou cinq raisons pour laquelle c'est bien la chair qui est en... Vous aurez ça donc sur votre PDF, qui sera aussi sur le site de l'ASPEF, dans quelque temps. Voilà le chemin du père vers le cadet et ce que j'appelle la contre-culture de la vie. Vous savez, il y a une culture de mort dans le monde. Ce chemin du cadet, je vous l'ai dit, un être individuel peut prendre ce chemin, mais aussi une nation entière peut l'adopter. Parce qu'une nation, c'est qu'une agrégation, finalement, de vie individuelle, d'âme individuelle. Donc l'âme d'une nation, elle est faite des âmes qui le composent. Et j'aimerais qu'on fasse une petite démonstration. Je vais appeler un père et un cadet. Alors le père, c'est Samuel. Le père va se mettre là et le cadet va arriver de là-bas. Vas-y. Parce que le mieux, c'est encore une démonstration visuelle. Hein. T'en vas pas trop loin, s'il te plaît. Hein. Voilà ce que l'on apprend dans ce retour. C'est-à-dire comment le chemin du père maintenant vers le cadet. Comment le père s'y prend? Déjà, le père le voit de loin. Ce que j'aimerais dire à chacun d'entre vous, c'est que si un cadet à l'intérieur de nous, et je vous l'ai dit de manière comme une thèse de départ, comme une hypothèse de départ, de travail pendant ce week-end, c'est que nous avons tous un cadet qui sommeille quelque part. Hein. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le père le voit de loin en vous. D'accord? Et donc le père voit le cadet. Première étape. Stop, on fait une pause. Deuxième étape. Ah, le père est ému de compassion, une expression qui a été réattribuée à Christ à d'autres moments. Et Christ fut ému de compassion. Souvenez-vous devant le tombeau de Lazare, devant la mort spirituelle, devant la mort, pas trop vite mon ami, la mort spirituelle, ça défile tout seul peut-être. Devant la mort spirituelle, eh bien, Christ est ému de compassion. Vous savez, la compassion dans le grec, c'est splankat somai, ça veut dire c'est vraiment les entrailles, c'est là que ça se situe. Et encore une fois, c'est le ventre, et il y a quelque chose de ce père au cœur de mère là-dedans. Le père donc est ému de compassion. Voilà. C'est pas mal hein, quand même, hein. C'est bien Samuel. Ensuite, le père court à lui. Vas-y, fonce et je commente après. Ouais. Pause. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi deux frères, hein? Le père court à lui. Ça, c'est l'image. C'est vraiment une image qui confronte tous les stéréotypes qui viennent de nos représentations idolâtres. Et j'ai aimé la définition qu'a donnée mon ami Luc hier de l'idolâtrie, qui était une représentation humaine, même de Dieu. Hein. Toute représentation qui n'est pas conforme à la révélation est une idole, à idolone. Hein. Et donc, le fait qu'il court à lui, on voit un père en action. Ça n'a rien à voir avec, excusez-moi, le dieu du bouddhisme, qui, de toute évidence, aurait besoin de faire un peu de footing le matin. Voire même le dieu jupitérien, avec une grande barbe, avec une voix qui résonne, avec des éclairs dans la main droite, cherchant qu'il pourra terrasser. Vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez l'image que Christ nous donne, de quelque chose, d'une image, mais qui est tapis, soyons clairs, qui est tapis dans notre inconscient, dans notre culture, qui est là, qui est dormante, qui est là, qui, quelquefois, lorsque venons à l'église, c'est à ça qu'on vient des fois, malheureusement. Mais ce Dieu-là, il court. Et qu'est-ce qu'il fait en courant? Il abolit la distance. Vous vous rappelez la distance dont je vous ai parlé? Il abolit la distance. Puisqu'en abolissant la distance, il abolit toute possibilité de religuer quoi que ce soit. C'est lui qui abolit la distance. Et puis, il se jette à son cou, on vient de le voir. Jette-toi à son cou. Voilà, c'est beau, c'est mignon. Le père se jette à son cou. Et là, il y a quelque chose vraiment aussi, en même temps paternel, en même temps maternel. Les bras du père. Oui, c'est ça qui manquait dans l'expérience sexuel du cadet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherchait chez les prostituées? Qu'est-ce qu'il cherchait chez les homosexuels? Il cherchait les bras du Père. Qu'est-ce que les Parisiens viennent faire au Maroc, à votre avis? Moi, j'ai vu dans leur culture, j'ai vu dans les hammams, comment les pères lavent leurs enfants. Il y a un contact physique depuis l'enfance. Il y a quelque chose de fort dans cette culture. Quand je suis allé au hammam, j'ai été toujours marqué par ça. Les pères, comme ça, qui prennent leurs enfants. Ça, les pères, donc, c'est en tout bien, tout honneur, on a tous des maillots de bain dans ces endroits-là. Et on frotte avec le savon noir, comme ça. Et le père frotte son... Et puis après, c'est le petit enfant, il frotte le dos de son père, comme ça. C'est magnifique, je dis, mais quand je regardais ça, je dis, ça c'est bon dans cette culture. Et après, quand je voyais ces Français qui viennent dans ce pays, je dis, ouais, je vois ce que vous venez chercher. Vous venez chercher les bras qui vous ont manqué, qui vous ont tant manqué. Soyez des bras aussi. Vous savez, le problème de notre génération, c'est que nous sommes des pères troncs. Moi, j'ai eu un père tronc. Vous savez ce que c'est qu'un père tronc? Vous savez pas ce que c'est qu'un père tronc? Demande à ton voisin, tu sais ce que c'est qu'un père tronc? Pour des gens, et les amis, pour des gens qui ne savaient pas ce que c'est, je trouve que vous parlez beaucoup, hein. Les pères troncs, T-R-O-N-C, ce sont des gens qui gardent leurs bras le long du corps, ils ne savent pas quoi faire, ils sont embarrassés. Mon père était un homme embarrassé, il nous aimait financièrement, pourvoyeur, mais mon père était un orphelin aussi, à l'âge de 4 ans, il était orphelin. Et puis on est d'une génération, il y a eu deux guerres, 14-18, 39-45, et en fait il y a une génération qui n'a pas su quoi faire avec ses bras. Il faut qu'il y ait une génération qui se lève, qui utilise ses bras comme le meilleur rempart contre toute possibilité de problèmes sexuels dans l'avenir. Embrassez vos enfants, parents, et c'est très important que dans la famille, il y ait les bras du père, les bras de la mère, le contact physique. On continue, il y a, donc il le couvre de baisers, on ne peut pas se priver d'une redémonstration. Et vous rappelez ceux qui étaient à l'atelier quand je parlais de la sanctification par l'amour? Il y avait deux blocs de construction. Soit on construit sur le fondement de l'amour, soit on construit sur le fondement du mépris, hein, dans la sanctification. Et moi, j'ai affirmé que la sanctification ne peut se faire que par le fondement de l'amour. J'inclus dedans la discipline, on est d'accord. Je vous renvoie aux questions d'hier soir. Je vous signale une chose ici. Lorsque le cadet rentre, là, il n'a pas de mal à embrasser son frangin s'est mis du parfum ce matin. Et cela dit, entre nous, c'est du parfum italien, et croyez-moi, c'est comme ça. Et vous savez, les Italiens, ils sont toujours très bons. Mais quand le cadet est rentré, et ça, je n'ai pas pu trouver de parfum qui sentait ça, il sentait le... Imaginez le père qui embrasse quelqu'un qui sent le cochon. Vous savez ce que le père a fait à ce moment-là, en le couvrant de baisers, pas en lui donnant un baiser du bout des lèvres, vous voyez, c'est pas du bout du bec, hein, c'est le couvrant de baisers. Répétez avec moi, couvrant de baisers. Dans un baiser, il y a toujours un petit peu de salive. Je vais aller à fond. Si vous êtes choqués là, attendez la suite, hein. Vous connaissez Les Experts, j'aime beaucoup cette série. Excusez-moi, je confesse un péché, hein, ce matin. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce qu'il cherche la vérité. Il y a encore des gens qui... Et le père, il lave son enfant et il met son ADN sur lui. Mes amis, la seule chose qui peut nous laver de notre péché, c'est l'amour du Père. Seul l'amour sanctifie. Cet enfant, vous avez été lavé par les baisers du Père alors que vous sentiez le cochon. Je veux dire, quelle douche, hein, quand même. Quelle douche. Et là, on a conscience que nous ne parlons pas de n'importe quel père. D'ailleurs, on a conscience qu'en voyant ça, nous ne parlons d'aucun père, si ce n'est le seul. Parce que je pense que si moi, j'étais arrivé en sentant le cochon, mon père m'aurait dit, bon, écoute, va vite te laver, on voit ça après, d'accord? Mais quel père laverait son fils avec sa propre salive? Waouh! Il lui fait mettre les plus beaux vêtements. C'est des vêtements italiens, bien sûr. Les plus beaux vêtements. Ce vêtement, vous savez, vous connaissez les références bibliques, hein, c'est les vêtements de Zacharie 3, c'est les vêtements de louange, c'est les vêtements de la justice, la nouvelle justice, pas la mienne, la sienne. Vous rappelez-vous le manteau de cuir, le costard de cuir que le Père a donné à Adam et Ève après qu'il leur ait fait ôter leur œuvre pathétique qui consistait à s'habiller dans des ceintures de feuilles de figuier comme ça, et se présenter devant Dieu. Comme ça. Non, mais il n'y a que les peintres qui ont rendu ça agréable, magnifique. Ça devait être d'un ridicule incroyable, tu sais. Non, mais vous relisez l'écriture, il y a marqué des ceintures de feuilles de figuier. Je vous promets qu'il y a écrit ceinture. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, tout ce que nos efforts pour nous justifier ne sont que des liens que nous mettons sur nos âmes. Et en plus, le figuier est une feuille très allergique. Alors imaginez, oh Seigneur, c'est beau, hein, on se présente devant toi, avec assurance. Mais qu'est-ce que ça fait mal, ce truc? Et Dieu dit, allez, tu m'enlèves ça, s'il te plaît, tu arrêtes. Et je disais, récemment, j'ai reçu une image sur Internet qui m'a plu. On voit un vieux lion qui a mis sa patte comme ça sur sa... Et c'est comme si Jésus nous regardait et puis disait, oh non, pas ça. Je te l'enverrai, Luc, c'est trop génial. Ça m'a fait rire, ce lion qui met sa patte. Avec les oreilles de cocker, tu sais. Ah non. Et chaque fois qu'on vient avec nos petites ceintures de feuilles de figuier devant Dieu en sautillant, le Père il dit, ah non, pas encore, il va falloir tout réexpliquer. Ok. Donc les plus beaux vêtements. Ensuite, il lui passe un anneau. Voilà. Voilà, il lui passe un anneau. L'anneau, signe d'alliance, bien entendu, mais aussi signe que l'on confie le royaume. Je ne sais pas si vous voyez, le royaume nous a été donné vraiment par grâce, les amis. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. Et Dieu sait si vous qui êtes dans l'éducation chrétienne, Dieu vous a confié le royaume et vous êtes porteur de cet évangile du royaume. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous honore ce matin dans le nom de Christ. Le Père lui fait porter de nouvelles sandales. Pourquoi? Parce que les pieds nus, c'est comme ça que l'on traitait les esclaves. Ah, il y a même les chaussettes. Hein. Les pieds nus, pourquoi on mettait les esclaves pieds nus, vous le savez? Voilà, pour pas qu'ils puissent s'enfuir. Parce que si un esclave s'enfuit, il est obligé de marcher dans les cailloux, etc. Le maître le rattrapera dans la journée, quoi. Sauf que s'il a des chaussures, ça change tout. Autrement dit, qu'est-ce que fait le Père? Il restaure la liberté. Il restaure la liberté de partir. C'est ça qui est incroyable, c'est que le Père a attendu, a guetté le retour du cadet. Lorsque le cadet est là, il lui redonne la possibilité, il lui donne un message clair. Tu peux, si tu veux, repartir à nouveau. Comme Christ a dit à ses disciples, et vous ne partez pas? Et je crois qu'une des raisons pour laquelle nous sommes chrétiens, c'est parce que nous ne sommes pas tenus de l'être. Pourquoi nous devenons disciples? Parce que nous ne sommes pas obligés, il n'y a pas une obligation morale. Nous souhaitons être disciples. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit, vous devez devenir mes disciples, il a dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un a le désir de devenir mon disciple, etc. Qu'il renonce à ses délais religieux, qu'il me suive. Traduction libre ce matin. Ensuite, on continue avec « Il fait tuer le veau gras ». Et vous savez, je suis ému quand je lis ça, toujours dans le verset 23. De ce... Parce que, c'est, souvenez-vous, c'est Jésus qui parle. Et qui est le veau gras ? Apocalypse 4, les quatre êtres vivants. Parmi les quatre, il y a le bœuf. Quatre êtres vivants, c'est quatre évangélistes. Les quatre évangélistes ont une configuration de leur âme qui leur permet de voir le Christ d'une certaine manière. Jean, son âme lui a permis de voir le Christ comme l'aigle. C'est-à-dire Dieu lui a donné une âme qui lui permettait de le voir lui comme aigle. Nous ne pouvons voir ce que nous sommes préparés à voir. Et j'aime dans le monde arabe, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup et qui vient d'ailleurs, je crois, des pères du désert. Quand on disait un père du désert, donc les pères du désert, c'est l'Égypte. Hein, quand on disait un père du désert, mais père, vous êtes rabouni, vous êtes formidable. Le rabouni répondait, si tu vois que je suis formidable, c'est parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de me voir en moi. Parce que tu ne pourrais pas voir en moi ce qui n'est pas en toi. De la même manière, lorsque quelqu'un dit, mais qu'est-ce que je dois faire, rabouni, lorsque je vois quelqu'un pécher? Et le rabbi qui répondait, repens-toi, parce que tu ne pourrais pas voir le péché dans le cœur de ton frère s'il était premièrement en toi. Vous voulez toujours écouter la suite du message? Donc le veau gras, c'est Christ. C'est Christ, c'est le don souverain de Dieu. Et ce qui m'émeut profondément, c'est que Christ, il sait qu'il va passer au sacrifice, à l'Holocauste. Il sait qu'il est l'agneau de l'Holocauste. Il sait qu'il est le veau gras. C'est-à-dire le don souverain de Dieu une fois pour toutes. Le chevreau dans la parabole va nous parler d'autre chose, mais ici le veau gras parle du don souverain de Dieu une fois pour toutes donné à l'humanité. Et vous voyez, c'est Christ qui parle dans cette parabole, il parle de lui-même. Le Père, là il prophétise dans Luc 15, le Père fait tuer le veau gras. Et vous savez, quand Jésus a dû raconter cette histoire, il parlait de lui-même. Et puis le deuxième point, le Père commande que l'on se réjouisse avec des chants et avec des danses. Vous savez, il y a une chose qui me frappe dans les mosquées. Il y a quatre choses qui sont interdites dans les mosquées, le savez-vous? Première chose, d'avoir des chaussures. Intéressant, vu ce qu'on a dit ce matin, n'est-ce pas? Ensuite, les femmes sont interdites. Je tiens à dire aux sœurs qu'elles sont bienvenues à la maison du Père. Et ce père a un cœur de mère, et je crois qu'on pourrait très bien faire une parabole avec deux filles. Un père avait deux fils. Et d'ailleurs, dans les séminaires qu'on donne, je fais souvent faire une démonstration par deux hommes et aussi par deux femmes, afin de montrer cet aspect aussi féminin de la révélation. Donc, on a dit les sandales, les chaussures en général, les femmes sont interdites dans les mosquées. Qu'est-ce qui est interdit ? La musique. Et les danses. Dans la maison du Père, là vous avez un fondement biblique, si vous voulez danser dans la maison du Père, vous l'avez là. Dans la maison du Père, il y a la réjouissance. Dans la maison du Père, il y a les chants, il y a les danses, il y a les chaussures et il y a les sœurs. Bon, les sœurs, vous pouvez applaudir le Seigneur, n'est-ce pas, hein? Amen. Donc, voilà, merci pour la démonstration. Hein, on les remercie. Voilà, donc, ça, c'est une sorte de film. Vous voyez, c'est un court-métrage qui nous est présenté et dans lequel on devrait se laisser interpeller. Et j'aimerais insister sur le fait que si nous faisons un parcours vers le Père dans toutes les écoles chrétiennes, on pourrait prendre, vous voyez, par exemple, le premier point pour un jour et commenter « Le Père me voit de loin ». Qu'est-ce que ça veut dire « Le Père me voit de loin » ? Alors, vous rendez compte, toute la thématique, on peut prêcher une semaine là-dessus. Ensuite, le point 2, une semaine. le point 3, une semaine, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment saucissonner cette parabole et construire des choses qui ne sont pas des parcours psychologicaux, machin truc, ma bidule, mais qui sont vraiment des choses tirées de l'écriture elle-même, qui nous offrent vraiment un chemin et des garde-fous en même temps pour ne pas nous éloigner dans des délires. Voilà aussi la deuxième image. Voilà l'image, vous savez, qui est dans nos inconscients. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de Bouddha qui aurait besoin de faire l'exercice et de ce dieu-là, jupitérien, qui est venu de Rome. Le dieu hyper transcendant, etc. Toutes ces images-là qui sont des idoles et qui sont confrontées par la parabole du fils prodigue, vraiment confrontées. Et ne pensez pas, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est ne pensez pas que ces représentations-là, elles sont acquises. Nous naissons avec ces représentations, parce que nous naissons pécheurs. Ces représentations-là, elles sont déjà en nous. C'est pour cette raison qu'il y a quand même tout un travail à faire chez l'enfant, de lui montrer qui est le père. Ça s'apprend. Un père, ça s'explique. Et la première explication, c'est nous, les parents. Bien sûr. Mais si nous voulons faire connaître qui est le père, c'est nous devons contempler ce père. Parce que de toute façon, nous deviendrons ce que nous adorerons. Nous serons ce que nous adorons. Et nos amis marocains me disent, mais Pierre, on voit que ce message il a pris du sens dans ta vie parce que tu n'arrêtes pas de nous prendre dans tes bras. Je dis, ben oui, c'est plus fort que moi. Depuis que je vois que le Père fait ça, j'ai du mal à faire autrement. Des fois, il faut que je me retienne. Il faut que je me retienne parce que c'est ce que je vois le Père faire. Et si le Père habite nos cœurs, il y a un moment donné, vous avez envie de se servir ces deux trucs qui pendent autour de votre corps, là. Pour témoigner, pour... faut dire, c'est comme ça que Dieu t'aime, quoi, tout simplement. Ok, le chemin de l'aîné ou la culture de la religiosité, encore une fois ce matin, la religion va en prendre un coup, excusez-moi, mais en même temps, je tiens à dire, et je vous donne un avertissement, si vous utilisez ce matériel pour l'apporter dans vos écoles, s'il vous plaît, ne jugez à aucun moment le cadet, ne jugez à aucun moment l'aîné, ne parlez ni avec un esprit de supériorité sur le cadet, ni avec un esprit de supériorité sur l'aîné, mais parlez avec compréhension, avec douceur et avec amour de ces gens-là. Moi, je suis amoureux de ces deux gars-là. Parce que, tout simplement, Dieu m'a demandé d'aimer mon âme. Et pour être libéré de ces deux tendances-là, il faut d'abord que je les aime, je les comprenne, et ensuite je pourrai me tourner vers le Christ intérieurement et leur dire, je me repens du cadet, je me repens de l'aîné dans ma vie. C'est comme le Christ. Et c'est devenu une sorte d'exercice spirituel dans ma vie. Alors là, Pierre, tu agis comme l'aîné. Là. C'est, vous relisez à l'intérieur de vous-même. Ah là, ça c'est l'aîné, Pierre. Attention. Ouh, punaise, là, le cadet, il est en train de se réveiller. Là. Voilà, c'est une petite... Je ne suis pas schizophrène, rassurez-vous. Il y a un magazine américain qui avait dit que 25% des Américains étaient schizophrènes. Puis la semaine suivante, ils ont dit, bon, on demande pardon à tous nos lecteurs, on s'est trompé dans la statistique, 99,9% des Américains sont schizophrènes. Je crois que ce qu'ils voulaient dire pas là, c'était pas les Américains qui le blâmaient, ils disaient qu'on a tous des tendances en nous, quoi. C'est ça qu'ils voulaient dire. Le chemin de l'aîné, une chose est évidente dans l'aîné, c'est que c'est un travailleur. Dès que la parabole vous le met en scène, il bosse. Mais ce qu'on discerne, c'est que son travail, c'est pas un travail... C'est un travail dans un zèle, dans zèle, 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 mère. La suite va nous le montrer. Quand le père l'invite à rentrer, vous savez, c'est incroyable parce que l'aîné rentre des travaux et dans cette parabole, ce qui est extraordinaire, c'est que les serviteurs, ce sont les seuls qui comprennent tout. Et il y a deux fils dans cette parabole, ils n'ont rien pigé au père. Mais alors, les serviteurs, alors eux, la théologie impecte. Exact. Parce que je crois que dans le chemin du service, il y a une révélation. Le service apporte une dose de révélation qui est incomparable. Pensez même aux noces de Cana. Qui est-ce qui a vu le miracle ? Les serviteurs. Ni l'ordonnanceur du repas, ni le mari, ni la femme, ni les invités n'avaient vu ça. Seuls les serviteurs ont vu le miracle. Les serviteurs sont-ils des anges? Sont-ils des représentations de l'humilité? Est-ce que ça veut dire que l'humilité nous donne accès à la compréhension? Mais en tout cas, les serviteurs arrivent. Et il y en a un qui arrive vers l'aîné, parce que l'aîné lui dit, c'est quoi cette boum là chez mon père? C'est quoi cette teuf là? Moi, je ne suis pas invité, c'est quoi ça? Et tu sais, ton frère, tu sais, il était parti, et ton père, on le croyait mort, et bien, figure-toi qu'il est rentré, et ton père fait la fête pour lui. L'aîné, ah d'accord. Joie, mon cœur est dans la joie. Aussi, quand le père vient, lui dit, une parole extraordinaire, le père le pria. Seigneur, comment tu peux nous prier? C'est nous qui devons te prier. Comment peux-tu nous prier? Comment, Père, peux-tu me prier? Comment Dieu peut-il te prier? Il le pria d'entrer. D'entrer, ce n'est pas un lieu, hein, d'entrer dans ce cœur, dans cette compréhension. On entre dans une compréhension avec toute sa vie. On ne met pas de conditions, on rentre inconditionnellement. Et s'il y a un appel prophétique sur ce séminaire, c'est rendez-vous. Rendez-vous, vous êtes cernés. Rendez-vous de manière inconditionnelle à l'amour de ce Père. Dieu n'est pas venu chercher, n'est pas adressé une invitation, il est venu adresser une reddition à chacune de nos âmes. Et il est dit que l'aîné ne voulut, il se mit en colère. Si vous lisez Romains 4, 15. Or, la loi produit la colère. Je vais vous donner un petit exemple très pratique de comment ça marche. Pourquoi la loi produit la colère? On ne va pas rentrer dans des grandes théologies. J'ai la théologie du tube de dentifrice. La théologie du tube de dentifrice, c'est celle-ci. C'est que dans la maison Kranga, il y a une conviction chez le père de famille. C'est que les tubes du dentifrice doivent se presser par la base. Et que je trouve étant la plus saine doctrine qui soit dans l'univers. Et j'ai des désobéissants dans mon propre foyer, vous rendez compte? Dans mon propre royaume, il y a des désobéissants. Et des rebelles. Qui utilisent le tube de dentifrice par le haut. Et quand j'arrive et je dois faire remonter toute la pâte vers le haut, je dis, mais comment ça se fait qu'on pourrait pas commencer par le bas? Et heureusement que pour laver les dents, faut serrer les dents, parce que des fois, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez, comme quoi la loi, nos principes, des fois, peuvent nous conduire. Alors la Bible dit, c'est bon d'avoir des valeurs, mais si vous avez des préceptes personnels, attention de ne pas les multiplier. C'est la multiplication des principes. Je n'ai pas le temps de m'apesantir sur cette idée-là, mais c'est la multiplication. Mais vous voyez, la loi produit la colère. Et là, il y a une loi. Et réfléchissez pendant que je parle, quelle est la loi de l'aîné? Quelle est la loi qui régit l'aîné en lui, qui le met en colère? Réfléchissez pendant qu'on parle. Et Hébreux 7, 19, ils n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Et c'est Hébreux 3, 19, pardon. C'est Hébreux 3, 19. Je ne sais pas ce que j'ai mis dans Hébreux 7, 19, voilà, je revérifie. L'éloignement incrédule. L'éloignement parle de l'incrédulité. Il dit, je ne peux pas croire ça. Attends, lui, il va faire la boum comme ça, il fout rien, il arrive, on lui offre le veau gras. Alors moi, le chevreau, hein, comme ça. Bernic, ouais. Quatrième, il est têtu, hein. C'est-à-dire que vraiment, il est stubborn, comme disent les Anglais. Il ne veut pas, il y a une psychorigidité qui s'est installée. D'ailleurs, je crois, mes amis, je suis désolé, mais je prends une position psychologique, excusez-moi, mais toute forme de légalisme nous rend psychorigide. Ça, c'est effrayant de penser ça. Vous savez ce que c'est que la psychologie? C'est comme si votre cerveau se sclérosait, devenait... Waouh, ça fait peur. Seigneur, oh, donne-nous de vivre dans la foi en ta grâce, Seigneur. Et garde-nous la psychorigidité. Vous savez, c'est terrible. Moi, je rencontre des gens, à la fin de leur vie, ils sont tellement psychorigides, ils n'écoutent même plus ce que vous leur disiez, quoi. Ils ne peuvent que parler, ils ne vous écoutent plus, ils sont incapables d'écouter les autres. Ça, ça fait peur. C'est toute une démarche de vie avec le légalisme qui les a conduits à ça. Ne pensez pas que ce soit du légalisme religieux. Il y a un légalisme ordinaire qui tapit le monde entier et qui est là. Ce n'est pas forcément religieux, le légalisme. Il y a toute forme de légalisme. Il y a un légalisme ordinaire qui habite le cœur de l'homme et qui va le rendre psychorigide s'il ne rencontre pas la grâce en Jésus-Christ. Il est menteur. Tout simplement parce qu'il dit, Père, il faut que je te dise quelque chose. J'ai toujours été avec toi et je n'ai jamais désobéi à aucun de tes commandements. Je n'ai jamais été pécheur, moi. Ah bon? Et qu'est-ce que dit 1 Jean 1:10? Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un... Et d'autant plus qu'il est gonflé de dire ça. Parce que le Père lui dit, entre, il dit non. T'as bien vu, hein, le... L'avantardiste, toi. Père, j'ai jamais désobéi à ton commandement. Bon, c'est vrai qu'il y a 5 minutes, je viens de le faire, mais... C'est le premier, hein, c'est le premier. Ah bon? Ok. Le mérite à l'ancienneté. Ça fait tant d'années que je te sers. Et moi, ça me fait... Enfin, je me dis, il faudrait peut-être qu'on change notre manière de témoigner. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait 30 ans. Moi, ça fait 2 semaines. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous savez, les années, mes amis, elles vous rendent plus vieux, mais elles n'ajoutent pas forcément de la maturité. Et je vais vous dire une chose, mes amis, c'est ce que vous mettez dans vos années qui va changer. Alors, Dieu m'a posé un petit calcul. Il m'a dit, Pierre, tu veux savoir quel âge tu as, quelle maturité tu as? Tu prends le nombre d'années de conversion. Et tu enlèves toutes les années que tu as passées, ou les minutes que tu as passées loin de ma bonté. Et ce qui reste, ben tu peux le mettre au compte de ta maturité. Prenez toutes vos années de conversion, ça y est, vous les prenez. Ding. Ok. Vous mettez un petit moins devant. Et maintenant, vous comptabilisez tout le nombre de minutes que vous avez passées loin de ce père-là. Tracez un trait. Égal. Et je vous pose la question, quel âge avez-vous? Oui, les années nous font vieillir. Il y a des gens qui disent, ouais, mais après 30 ans de service, je devrais quand même être ancien dans cette maison, comme cette église. Comme... Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un ancien, ce n'est pas ça. Il y a des gens jeunes en âge qui peuvent être des anciens parce que... S'ils ont rencontré ce père-là, qui s'y sont accrochés, à ce moment-là, ils sont sur le chemin de devenir des responsables. C'est pour cette raison que c'est tellement important qu'en tant qu'enseignant, nous accrochions à ce père-là. Donc lui, il mérite à l'ancienneté. Ça fait tant d'années que je te sers, quand même, attends. Donc vous voyez la loi inconsciente qui régit sa vie. C'est que la grâce se mérite par les années de service. C'est-à-dire qu'on ne peut recevoir quelque chose que si on l'a travaillé pour. Et c'est normal, la vie nous parle de ça, constamment la vie nous parle de ça. Mais la vie en Dieu nous parle un autre langage. C'est que nous ne recevons rien sur la base de nos mérites, nous recevons tout sur la base de la foi et de la foi seule. L'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Vous savez, on est incorrigible. Je vais faire un séminaire une fois sur la grâce, en Finlande. Et vraiment, c'était extraordinaire. J'étais béni. Et je crois vraiment que nos amis étaient bénis. Et dans l'avion qui me ramenait, je me rappelle, j'étais au bord du hublot comme ça. Je dis, Père, tu dois être content de moi. Hein. Et j'ai dit... Au fait, qu'est-ce que je pourrais te demander? Quand j'ai réalisé ça, oh punaise, j'ai dit. Et dans l'avion, le père, il m'a dit ceci, il m'a dit, Pierre, quel est le plus grand pêcheur de Finlande? Je lui ai dit, moi, comme j'imagine, je pense que c'est quelqu'un qui a bu trop de vodka, c'est le problème de la Finlande, qui a claqué sa femme, ses enfants, qui a perdu le respect de ses enfants, de sa femme, qui a perdu son boulot, qui est dans les rues d'Helsinki... Qui est une épave, peut-être c'est ça, enfin. Il me dit, Pierre, lequel de ces deux a le plus besoin de ma grâce? Lequel, quel montant de grâce fera-t-il que je déploie sur cet homme pour qu'il sorte de son caniveau? J'ai dit, oh. J'ai dit, Seigneur, réponds pour moi, s'il te plaît. Et il m'a dit, le montant de grâce qu'il faudra pour sortir de cet homme, de son caniveau, pour se relever, pour être restauré, pour travailler à nouveau, pour revenir à une vie sociale, ce montant de grâce-là, c'est le même que tu auras besoin de toi pour faire un pas de plus avec moi dans la minute qui vient. Et si d'aventure, Pierre, tu regardes ces gens-là en te disant, waouh, la grâce qu'il faudra pour eux, en pensant qu'il leur faudra plus de grâce à toi que simplement pour rester chrétien dans ma présence, alors c'est que tu auras commencé à compter sur ta propre justice. L'amour est refroidi. Dans le grec, il dit « et ton fils ». Le grec dit exactement « et celui-ci, ton fils de toi ». Ton fils de toi, en grec, c'est écrit. Et ce fils de toi, voilà. Et ce fils de toi, ça rappelle la femme que tu m'as donnée. Genèse, ça vous dit vaguement quelque chose? Adam, il blâme pas Dieu, là? Non. Ne rend pas Dieu responsable de leur donner une femme qui l'a fait pécher? Non, pas du tout. Non, c'est simplement une précaution de langage. Tu sais la femme là que tu m'as donnée, non? Non, c'est ça. Et le fils de toi, tac, hop, boum, tch, l'amour refroidit. C'est pas mon frère, c'est le fils de toi. Ton engeance, ce truc que t'as enfanté là, ce bidule, ce machin là. Waouh, l'amour refroidit. Les reproches, bien sûr, qui sont là-dedans, qui rappellent les reproches de Jean 3, 12. Hein. Ce fils de toi, celui-là, c'est quand même toi qui l'as engendré. Regarde ce que tu as engendré quand même. Franchement, il y a tout ça dans l'aîné. Et puis surtout, j'aimerais terminer par ça. Il ignore la nuance et on va le voir, je pense, dans le chemin du Père maintenant, ça sera mieux. On passe tout de suite au chemin du Père vers l'aîné. Ou la contre-culture du royaume. Le père guette son retour, je vous l'ai dit. Hein. Il guette le retour. Il est à moitié à la fête. Il est à la fête, mais il dit, l'aîné n'est pas encore rentré. Et il se réjouit comme ça, il dit, alors vous êtes content, bienvenue dans la maison, tout ça. Et il regarde comme ça. Il s'occupe de ses invités, il fait la fête. Il regarde si l'aîné ne pourrait pas rentrer. Viens, mon fils, je t'attends. Ok, et puis, voilà. Mais il y a quelque chose qui le préoccupe, il fait la fête, parce que son fils est invité, l'aîné est invité. Mais il faut qu'il arrive. Et on le voit dans l'Écriture qu'il ne fait pas simplement de l'attendre dans la maison, il quitte la maison. Autrement dit, il fait le même chemin qu'il va faire pour le cadet. Exactement. La tradition a opposé les deux fils, c'est les mêmes, ils fonctionnent pareil. Donc le père est allé, il va à sa rencontre. Vous verrez ça dans le verset 28, dans la deuxième partie du verset. Il va à sa rencontre. Le père veut le gagner, c'est ce qu'on voit. Il y a le désir du père de lui parler, de gagner son cœur. Mon fils, hein, Luc, hein, tu nous rappelais ce passage. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et s'il y a des fils ici, donnez vos cœurs à vos parents. David, donne ton cœur à tes parents, à ton père. Raphaël, donne ton cœur. Nous, en tant que parents, on ne peut pas voler vos cœurs. Hein? Jean-Daniel qui se planque. Jean-Daniel, je t'ai vu, Jean-Daniel, donne ton cœur. D'accord? On ne peut pas venir vous le voler. Vous ne pouvez que l'offrir. Parce que c'est saint, votre cœur, c'est sacré. Donnez vos cœurs, les enfants, donnez vos cœurs. Le Père veut le gagner. Le Père le prie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'incroyable dans cette prière du Père qui nous est adressée. Continue. Le Père l'écoute. Il y a une écoute du Père. Il écoute, il reçoit la colère. Vous voyez, la colère de l'aîné ne va pas susciter en lui une colère. Il reçoit la colère. La colère se manifeste, il la reçoit, il l'absorbe. Extraordinaire. Le Père l'identifie comme fils. Ah, j'aimerais dire l'écoute du Père par rapport à la colère. J'ai dit des choses dans la colère au Père déjà. J'espère que ça vous arrivera aussi. Parce qu'il vaut mieux que vous dites des choses dans la colère au Père, que vous exprimiez votre colère, que vous la mettiez à l'intérieur. Ça va sortir d'une autre manière qui ne va pas être bonne. Puis un jour, j'ai dit à Seigneur, je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû te dire ça. Il dit, tu sais, j'en ai entendu d'autres. Hein. Le Père, alors c'est magnifique, le Père l'identifie. Quand je dis identifie, il lui dit mon fils. Alors que l'aîné vient comme un mercenaire. Ça fait tant d'années que je te sers, que je bosse et j'ai même pas eu un chevreau. Et le fils de toi, lorsqu'il va avec les prostituées, lui il a le droit au veau gras. Mon fils. Waouh, mon fils. Vous voyez, dans Dieu, il y a pas l'ombre d'une variation. Il faut absolument changer ce verset dans ce chant, les amis. On a l'impression que le chant est génial, mais alors il y a un endroit là, on a l'impression que Dieu pourrait varier, tu vois, dans son acceptation de nous. Le Père n'est pas oublieux. C'est-à-dire que le Père, il sait tout le boulot qu'il a fait. Le Père lui rappelle l'alliance, la vie abondante qui fait de lui un copropriétaire. Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Et il y a une... Pourquoi je parle d'ignorance? Et là, on arrive vraiment au cœur de la parabole. Au cœur. Et je vous demande d'être vraiment très attentifs. Saint-Esprit, vraiment, je te demande de nous rendre attentifs dans ce moment-là. C'est tellement précieux, c'est tellement ce que la tradition a voulu nous faire rater. Je demande au nom de Jésus, Père, que nous rations pas ça. Et donne-moi les mots pour l'exprimer clairement et courtement, Père. Ici, souvenez-vous, au début de la parabole, lorsque le cadet réclame l'héritage, il est dit « Et le Père leur, vous m'entendez, leur partagea son bien. » À qui le Père partage-t-il son bien? Deux. Première hypothèse, le Père se dépouille à 100% de son bien et donne 50-50 aux deux. C'est ce que j'ai cru premièrement, mais d'autres versets de la Bible laissent sous-entendre que lorsqu'on partage le royaume, le Père ne s'en dépouille pas parce que le Père sera toujours le Père du royaume. Par contre, il y a l'idée, sera-ce jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne. Et je crois qu'il y a quelque chose là parce que théologiquement parlant, nous sommes collaborateurs avec Dieu, nous sommes co-héritiers avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si Dieu nous donne tout, il est plus dans le deal. Or, Dieu restera toujours dans le deal. Alléluia. Merci, Père. Merci. Ouf, il reste le roi de ce royaume. Sinon, c'est plus un royaume. Donc, je pense qu'on est autorisé à dire, avec toute la résonance biblique, que le Père donne la moitié du royaume aux deux. Mais quand on partage un royaume en deux et qu'on donne donc 25 à l'un, 25 à l'autre, les 25% qu'a l'aîné, par exemple, le rendent actionnaire, le rendent copropriétaire. Et là, je vous renvoie à un passage extraordinaire qui se trouve dans Galates, le passage entre Galates 3 et Galates 4, c'est dommage qu'il y ait ce hiatus entre les deux chapitres, où il est dit que, bien que le fils soit en bas âge, il est héritier, propriétaire de tout. Jusqu'au temps fixé par le Père. Oh, j'aime cette expression. Jusqu'au temps fixé par le Père. Autrement dit, ça me fait penser à ces portes de maison où nous mettons les petits coups de crayon sur la croissance de nos enfants. Et j'ai l'impression, vous savez, sur nos vies, que le Père promène ce regard sur nos vies. Où il a mis un petit coup de crayon avec le sang de son fils. Elle dit, quand tu auras atteint cette maturité, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'année. Les années seront sans doute indispensables, mais ça dépendra de ce que nous mettrons dans ces années-là. Mais il y a un moment donné, le Père dit, là, alors qu'il est simplement héritier pour la foi, je vais lui donner. Je vais lui donner ce royaume. Je vais lui donner son héritage. La vie abondante. Et le Père ici, il dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. J'aimerais que vos âmes l'entendent. Ma fille, tu es toujours avec moi, dit le Père, toujours. Même quand tu agis comme le cadet, même quand tu agis comme l'aîné, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et vous savez qu'avec ça, vous pouvez faire un mariage. Prenons un futur couple là. Tiens, Samuel et sa fiancée. Venez deux, tous les deux. On va faire une petite répétition. Samuel, c'est pour du faux pour l'instant. On est bien d'accord. Hein, c'est pour... Tes parents sont là, je veux pas de problème. Hein. Mais tu vas dire cette parole que le Père dit au Fils, tu vas le dire à ta bien-aimée, rien que pour voir ce qui se passe dans ton cœur. Et toi, tu vas reprendre la même phrase et tu vas lui tourner vers lui. Donc vous la connaissez, c'est Luc 15, 31, c'est, donc tu ne vas pas dire ma fille, hein, on est d'accord, tu vas dire ma bien-aimée ou, hein, ou Christelle, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. D'accord? Et puis tu répondras.
C'est...
On essaie de les préparer au mariage, vous savez, donc... Christelle, tu es toujours avec moi.
Ah ouais, d'accord. Tout ce qui est à moi est à toi, d'accord.
Christelle, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi.
Samuel, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi.
Merci.
Amen. Il se marie dans 2-3 semaines. Hein. Donc, vous voyez, comme j'ai voulu qu'on entende ça, parce que c'est vraiment un verset d'alliance. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a la première partie de l'alliance et Dieu s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il dit, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ça appelle une réponse. Laquelle? Laquelle? Allez-y. Père. Je vais être toujours avec toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Allez-y, répondez-lui. Amen, amen, amen. Autrement dit, vous comprenez pourquoi l'aîné est dans une sorte de délire. Il est dans une sorte de délire religieux qui fut de lui un mendiant des choses de Dieu. Autrement dit, pourquoi tu réclames ce chevreau alors qu'il est à toi? Vous savez, ça m'a défié. Je me dis, mais combien de fois dans ma vie, finalement, je suis venu te supplier, te demander des trucs, alors que quelque part, tu me dis, va et prends dans la foi. Il y a un ministère de guérison que je respecte beaucoup, qui est en Afrique. Et c'est je vous en parlerai juste après. Peut-être je voudrais vous dire une dernière chose. Dans cette parabole, il y a un parc qui s'appelle le parc à chevreaux, finalement. Il est question de chevreaux. Qu'est-ce que c'est que cet aîné? Qu'est-ce que vous réclamez au fond? Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que c'est que ce chevreau? Ce chevreau, principalement, ce parc à chevreaux, c'est la bonté du Père. C'est le royaume de Dieu. C'est ce qui vous est offert dans l'héritage. Il est là. Écoutez.
Ben.
Vous entendez pas? Aidez-moi un petit peu.
Ben. Ben.
Vous l'entendez, la bonté du Père, encore. Ouais. S'il vous plaît, n'envoyez pas de lettres d'insulte à Luc en disant que ce cranga nous a rendus comme des chèvres. Hein, si. Il y a vraiment un domaine de l'amour du Père où l'entend. Et ça, c'est lamentation. Qui dit, c'est Lamentation de Jérémie, oui, qui dit ce dont je me souviens, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et pour certains d'entre vous, cette bonté, c'est peut-être un enseignant que vous avez besoin. Peut-être c'est plus d'enfants dans votre école. C'est peut-être d'autres écoles en France. Mes amis, il faut que nous ayons l'audace de la foi d'aller saisir ça dans la bonté du Père. Et je voudrais vous donner ce témoignage de cette femme qui m'a tellement marqué, parce que alors que j'étudiais ça, on me donne un DVD de cette femme qui a un ministère de guérison. Quand elle prie pour la guérison, elle dit, je vais dans la bonté du Père chercher le membre en bonne santé qui manque à cette personne. Je vais m'en saisir par la foi. Je vais croire, oser croire qu'il y a ce membre malade, ce membre guéri, ce membre en bonne santé, cet organe en bonne santé. Je vais le chercher dans la bonté de mon Père. Je vais dans le parc à chevreaux de mon Père, je le prends, c'est moi qui rajoute, et je le ramène dans le corps malade. Je trouve que cette attitude intérieure, c'est génial, plutôt que de dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Vous voyez, il y a une démarche, il y a une démarche volontaire, il y a une démarche d'aller, c'est un cri de guerre, Dieu est bon. Si Dieu est bon, dis alors viens dedans et pille. Viens dedans et serre-toi. Et si tu viens dedans et tu te serres, mon cœur de Père est glorifié. Je suis glorifié. J'aime quand mes enfants viennent dans ma bonté se servir par la foi.
Ben...
Écoutez,
bah.
Hey, y a plus de bonté les amis, aidez-moi un peu. Hein. Il y a un parc à chevreaux. Ce parc à chevreaux nous parle du royaume de Dieu. Vous voyez, on peut même être héritier d'un royaume. Et parce qu'on a une identité de mercenaire, ce royaume, on y passe tous les jours à côté et on ne se sert pas dedans. Et pourquoi, et si on ne se sert pas dedans, le royaume de Dieu n'avancera pas. Le seul moyen, mes amis, de faire avancer le royaume de Dieu, c'est quand une génération, et je prie qu'elle sorte de nos écoles chrétiennes, croira suffisamment en l'amour du Père, qu'elle ira se servir quotidiennement dans l'amour du Père. Car chaque fois que nous allons nous servir dans ce parc à chevreaux et que nous ramenons ce chevreau dans nos vies, il devient visible dans le monde et le royaume de Dieu a fait un pas en avant. Tous ceux d'entre vous qui avez cru suffisamment à l'amour du Père pour ouvrir des écoles, vous avez fait venir une mesure du royaume de Dieu dans le visible. Que vous soyez honoré pour cette fois-là. Continuez de piller sa bonté. Continuez de la piller. Lycée, école de maître, et vous allez mettre un nom sur ce chevreau maintenant. D'accord ? Est-ce que je vais vous demander de faire un petit geste prophétique ? Pour ceux que ça gêne dans leur théologie, vous allez faire un petit geste symbolique. Vous allez vous baisser. Imaginez que les chevreaux qu'on a entendus, ils sont là. Ils cherchent quelqu'un qui pourra les prendre comme ça. Ils sont là, ils sont dans les rangs. On est envahis de chevreaux ce matin. Vous allez faire un geste. Vous allez le prendre sur vos genoux. Prenez-le maintenant. Allez-y. Et mettez un nom sur ce chevreau. Mettez un nom sur ce chevreau. Il reste combien de diapos ? Donc l'interprétation de cette parabole, c'est quoi ? On doit s'arrêter. J'aimerais rapidement dresser le tableau. Si tu peux aller directement à la diapo interprétation. Ça doit être la dernière. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous montrer ? Il a voulu nous montrer deux manières d'être en présence de son Père qui ne sont invalidées par son propre vie, par sa propre témoignage. Ni le cadet n'est un modèle, ni l'aîné est un modèle, mais ce sont des êtres de chair et de sang qui existent bien. Ils existent bien. Et en aucun cas, Jésus a voulu nous parler du chemin vers le Père que lui est. Il est le seul chemin vers le Père. Je suis le chemin, dit Jésus, le seul chemin. Ni le cadet, ni l'aîné ne sont des chemins vers le Père. Et donc, il a fallu pour nous révéler le Père, il faut qu'il nous révèle le Père. Vous rappelez cette expression ? Il nous révèle le Père. Nous devons être révélés dans le processus, nous aussi. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, rapidement. je l'ai dit aussi, ces deux modes de présence au Père, que Jésus invalide avec sa propre personne, sa propre relation avec son Père. Troisième point, les deux fils déclinent exactement la même religiosité, finalement, sous des apparences différentes. On ne sait pas comment l'aîné va craquer à la fin, la parabole ne nous le dit pas, mais on sait que le cadet, lui, a craqué. Peut-être l'aîné va réaliser, mais oui, finalement, pourquoi j'ai mendié ce chevreau alors que finalement je suis copropriétaire avec mon père depuis que mon cadet est parti. Finalement, le départ de mon cadet m'a rendu copropriétaire. Pourquoi je lui en veux? Qu'est-ce que c'est que ce délire que j'ai là? Pourquoi cette haine? Pourquoi tant de haine? Les deux fils ont besoin de revenir de l'éloignement du père de la maison. On continue? Il est possible de commencer sa vie comme le cadet, ah oui, mes amis. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus un petit peu dans le cadet pendant ces deux jours? Merci pour ceux qui osent lever la main. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans l'aîné? Il y en a qui n'ont pas levé la main. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans les deux? Ben c'est normal. C'est normal parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, dans cette parabole, c'est possible que Jésus ait voulu nous montrer qu'on peut très bien commencer sa vie chrétienne comme le cadet. Et il a continué joyeusement comme l'aîné, quoi. C'est raté, quoi, dans les deux cas. Donc, peu importe, sachons que c'est comme le cas pour beaucoup de nos vies, soyons réalistes. Vous avez commencé comme le cadet, puis après vous avez dit, attends, non, il faut devenir chrétien. Sérieux. Et vous allez devenir un bon chrétien. Puis vous allez dire, mais ça fait tant d'années que je te sers, Seigneur, j'ai toujours fait ça. Puis il y a une sorte de colère comme ça, vous contenez derrière un beau sourire comme ça, il y a une colère à l'intérieur, enfin vous contenez comme ça, je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ce délire, c'est ça la vie chrétienne, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Mes amis, pourquoi ça ne jouera ni jamais avec le cadet, ni jamais avec l'aîné? Parce qu'ils ne sont pas le chemin vers le Père. Seul le Christ, c'est la seule solution, que vous tombiez les bras ouverts dans le Christ, donne ta vie à Jésus. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, d'ailleurs, je fais un appel ce matin. Qui que tu sois, qui soit dans cette salle, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. S'il te plaît, ce matin, l'amour du Père te presse. Donne ton cœur à Jésus. Le veau représente le sacrifice parfait, le cochon représente le péché, le chevreau représente la bonté du Père qui se renouvelle chaque matin. La bonté de Dieu se manifeste lorsqu'on persévère dans la bonté. Là est le vrai combat de toute notre vie, mes amis. Nous devons nous servir dans la bonté du Père et ne pas mendier. Le cadet doit abandonner son sentiment d'indignité, tout orgueil, et accepter son identité de fils en se rendant inconditionnellement à l'amour du Père. Et puis enfin, le dernier point d'interprétation, l'aîné doit abandonner son orgueil, son incrédulité, accepter son identité de fils copropriétaire. Voilà, mes amis, je voudrais m'arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres niveaux d'interprétation. Le cadet peut représenter les gentils et l'aîné peut représenter Israël. Il y a plein d'autres niveaux d'interprétation et ils sont tous valables. Je n'ai pas voulu forcer simplement une interprétation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez pris votre chevreau. N'oubliez pas votre chevreau en partant, s'il vous plaît. On ne voudrait pas qu'il y ait des chevreaux qui traînent dans la salle après, pour ceux qui rangent la salle. Merci. Luc ?
Tu peux applaudir, hein, oui.
Merci. Merci Pierre.
Nous avons touché au cœur de ce qui fait notre mandat d'éducateur, et que l'atmosphère de cette maison du Père puisse être celle de nos écoles. C'est le but de ce séminaire qui est à mettre en pratique maintenant. J'aimerais juste quelques annonces avant qu'on clôt tout à fait ce séminaire. J'aimerais vous dire d'abord que j'aimerais que l'équipe du comité de l'AESPEF, l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques, se lève. L'équipe du comité là qui travaille avec moi, levez-vous, il y en a déjà, voilà, il y en a au fond là. On peut les applaudir et on vous remercie pour votre aide. Votre dévouement, voilà, on veut remercier, j'aimerais remercier de tout cœur aussi notre ami David Nochelski avec ses enfants qui ont fait tout ce qui est la prise de vue, merci beaucoup, voilà. David est aussi le directeur de l'école de Roubaix, mais avec un cœur de service, vraiment, il nous a servi. J'espère que ces DVD, l'année prochaine, pourront être disponibles et pour être, vraiment que ça marque ces moments. J'aimerais aussi remercier les orateurs, les intervenants d'atelier. Levez-vous, là, ceux qui restent. Il y a Wendy qui a dû partir déjà, mais les autres, est-ce qu'ils sont encore là? Les Blancou, par exemple. Voilà, Madame Blancou, merci beaucoup. Jean-Louis Michel Filâtre, voilà, merci beaucoup. Anne-Pierre-Élien, elle est incorrigée. Ah oui, voilà, je croyais que tu étais en bas, Anne, voilà, Anne. Et Cyril, voilà, il y en a d'autres encore, hein, non? C'est bon. Pardon? Marc Tirifeuille, Marc, t'es où, Marc? Ah bah oui, t'es toujours debout, là, voilà. Merci beaucoup, Marc, voilà. J'aimerais aussi remercier, en dernier, mais en premier aussi, Manuela, parce que ça fait des semaines.